بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بصافوش إن شاء الله رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاء الإسلام نغمسيون الله عز وجل qui nous donne la possibilité de reprendre donc ces programmes concernant les grands signes de la fin des temps. Et le sujet que nous abordons depuis quelques séances, c'est un des grands signes de Qiyama, c'est la venue sur ce dunya, la venue de ce monde de l'antéchrist, du Al-Masih al-Dajjal. Et on avait expliqué, si vous pouvez éteindre le ventilateur, ce serait mieux, ça fait trop de bruit. On avait expliqué que le iman, la croyance sur la venue d'une personne à la fin des temps qui aura reçu des pouvoirs de la part d'Allah Azza wa Jal, qui aura comme objectif de détourner un maximum de personnes du droit chemin, cette aqidah-là, cette croyance-là fait partie des croyances du musulman, mais c'est également une croyance partagée par d'autres religions. Et on avait vu, on avait abordé brièvement que même chez les chrétiens, il y a la notion d'antéchrist. Il y a la notion d'antéchrist. Et il y a également la croyance sur le retour de Jésus-Christ, sur le retour de Isa alayhi salam à la fin des temps. Mais bien sûr, notre conception à nous musulmans de Al-Masih al-Dajjal, du Dajjal, et la conception des chrétiens sur la venue de l'antéchrist, ce sont là deux croyances communes, mais qui ne sont pas identiques dans l'objectif et dans le déroulement des faits et des événements. On avait expliqué tout début, on avait fait une introduction générale sur ce grand signe qui est la venue de Dajjal. On avait expliqué pour quelle sagesse Allah subhanahu wa ta'ala envoie une personne, envoie une créature sur la terre qui aura pour but de détourner un maximum de personnes du droit chemin. Et on avait expliqué également le sens de Dajjal. Et enfin, la dernière fois, on avait vu la description physique de Dajjal. Et une chose extrêmement importante qu'on avait expliqué la dernière fois, c'est que c'est une créature qui a déjà été créée par Allah et qui, contrairement à Imam Mehdi, on a la certitude que cette créature, au moins, elle existe déjà. Alors que pour Imam Mehdi, il y a parfois beaucoup de spéculations. Il y a beaucoup de gens qui laissent entendre qu'ils auraient rencontré Imam Mehdi, qu'ils auraient fait Moulakat, qu'ils seraient nés, qu'ils sortiraient cette année. Il se fut un temps avant qu'il y ait Internet, c'est-à-dire à une époque où on pouvait dire ce qu'on voulait sans qu'on avait la possibilité de vérifier. On n'avait pas d'autre source que les personnes qui nous parlaient. Alors, il y a 10 ou 15 ans de cela, à chaque fois que le Hajj s'approchait, on entendait des gens dire que voilà, cette année, Imam Mehdi va sortir. Que cette année, ce Hajj-là, on va rencontrer Imam Mehdi. Certains grands personnages l'ont déjà rencontré tel endroit, ils ont fait Moulakat. Et puis d'année en année, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu de Mehdi qui est apparu. On a bien compris qu'il y a des gens qui soit se fient à leur instinct, mais cette religion, elle n'est pas basée sur l'instinct. Cette religion, elle est basée sur des textes. Et pour ne pas mettre en péril le côté véridique de ce dîn, il est du devoir du musulman de ne pas se prononcer sans qu'il n'ait de preuves, pour ne pas discréditer la religion. Parce que si chaque personne essaie de s'avancer dans la religion, essaie de donner son opinion en disant que je pense que tel verset veut dire telle chose, ou alors je pense que dans la religion on peut apporter telle chose, on peut innover telle chose, on peut supprimer telle chose, uniquement parce qu'il le sent, uniquement parce qu'il pense que ce serait une bonne chose, alors on ne fait rien pour notre dîn, on est en train de discréditer notre religion. Alors donc, à cette époque où les gens parlaient beaucoup d'Imam Mehdi, disaient qu'il allait sortir à chaque hajj, on s'est rendu compte que l'Imam Mehdi, jusqu'à maintenant, n'est jamais sorti. On avait vu dans le chapitre sur Imam Mehdi que lui-même, en tant que Mehdi, ne sait pas qu'il a ce rôle de Mehdi. Ce sont des gens qui vont reconnaître les signes dans cette personne et qui vont reconnaître que le contexte est exactement comme celui décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que la période de trouble se situe à un moment où les gens, selon certaines sources, sont à Makkah, sont dans certaines sources, on parle même du Hajj, et donc là, il y a des personnes qui vont le reconnaître et qui vont l'amener sur le mataf de force et l'obliger à accepter le bay'a. Donc lui-même, Imam Mehdi, à la base, ne sait pas qu'il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour cette mission. Donc, Mimbab Aoula, encore moins des personnes extérieures ne peuvent décelés ne peuvent connaître ce qui est Imam Mehdi. Parce qu'après, il y a la notion de... Il y a beaucoup de gens qui parlent de science infuse. Mais la science infuse, mes chers frères, il est possible qu'une personne reçoive une illumination de la part d'Allah, un ilham. Comme Omar al-Khattab, radiallahu anhu, une fois, il était sur le mimbar, en train de faire le khutbah, et Allah Ta'ala mis dans son cœur quelque chose. Il a eu une vision que l'armée des musulmans était à tel endroit et qu'il y avait tel problème. Il a eu cette vision. Mais de là à dire qu'il y a des gens qui sont capables de savoir tout de l'invisible, qui peuvent prédire, qui peuvent lire dans les cœurs, qui peuvent vous dire qu'est-ce qui va se passer, qui peuvent donner des interprétations qui sont très souvent le fruit de leur imagination, alors ça c'est la pire des choses. Parce qu'on n'est pas en train d'aider le dîn, on est en train de discréditer notre religion. Et avant de parler donc du programme du jour, vous avez remarqué, on ne parle pas d'actualité, c'est un principe, on ne parle ni de politique, mais d'actualité à la limite, ça ne pose pas de problème. Vous savez que le roi, le prince Sultan, est décédé avant-hier. C'est celui qui devait accéder au trône, juste après le roi Abdallah, Hafizahullah. Et vous savez que la monarchie saoudienne se transmet pas de père en fils, mais de frère en frère. Ce qui fait que d'un héritier à l'autre, il peut y avoir que 2 ans ou 3 ans maximum de différence d'âge. Donc, le prince Sultan est décédé. Et en ce moment, le roi Abdallah donc, a subi une opération, une énième opération, et un idiscal, un problème de santé qu'il avait. Et donc, on n'est pas en train de dire qu'il y a un signe de Qiyama qui va se produire. Non, non, non. Mais juste au moment où, subhanallah, on a appris le décès de Amir Sultan et qu'en même temps on a appris que le roi Abdallah est à l'hôpital, on s'est dit que subhanallah, à la fin des temps viendra une époque où un dirigeant musulman va mourir et qu'il y aura divergence d'opinion de la Ummah pour voir qui va le succéder. Et ce sera à ce moment précis que des troubles énormes vont apparaître dans le monde musulman, troubles qui vont justifier, qui vont provoquer, on pourrait dire, la venue immédiate d'Imam Mehdi, la proclamation du Mehdi. Ça ne veut pas dire que c'est maintenant, non, c'est juste une image. Quand vous voyez ce genre d'événement qui se passe, et là vous voyez depuis quelque temps, il y a des dirigeants musulmans, parfois on peut dire des tyrans comme on peut les appeler, ils sont en train de tomber un par un, comme des papayes qui tombent quand c'est trop mûr, un par un ils tombent. Maintenant, il faut savoir qu'à un moment donné, il y aura la mort d'un dirigeant musulman qui va provoquer la venue d'Imam Mehdi. Si ce n'est pas un, si ce n'est pas l'autre, c'est celui dans 15 ans, dans 20 ans, Allah seul le sait. Mais il faut savoir que ça fait partie des signes de la venue d'Imam Mehdi, le décès d'un khalifa, le terme arabe c'est khalifa, d'un dirigeant musulman, mais d'un pays à travers lequel les gens se reconnaissent. Ce qui fait qu'après son décès, il y aura divergence quant à celui qui va gouverner, et puis là il y aura différentes personnes qui vont amener des armées pour telle chose, comme l'avait expliqué, et là Allah Ta'ala va faire en sorte qu'Imam Mehdi soit proclamé comme le guide, comme le Mehdi à la fin des temps. C'est juste un ishar, c'est juste pour attirer votre attention que le musulman doit suivre les faits d'actualité, mais avec un regard un peu décalé. En même temps on observe, on écoute, et en même temps on a nos textes, nos sources, les choses annoncées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit intégrer et qu'on doit mettre en avant pour la lecture des événements. Et une petite précision, là aussi on n'entre pas dans la politique. Regardez, subhanallah, à quel degré les musulmans sont tombés, wallah musta'an. Ils voient les dirigeants qui sont abattus, qui sont lynchés, qui sont torturés, qui sont, on pourrait dire, abattus comme des animaux. Et analyser les commentaires des occidentaux, quand certaines personnes qui se disent des défenseurs des droits de l'homme, qui disent que tel dirigeant a été tué, c'est une bonne chose pour la justice, c'est une bonne chose pour le retour de la démocratie, pour la libération des peuples. On se demande que, quand un politicien qui défend les droits de l'homme et qui voit un homme se faire lyncher, se faire agresser, torturer, vous avez vu la vidéo sur YouTube, on va dire, de Kadhafi, qui avant de mourir, on l'a mis debout. Excusez-moi, les termes sont crus, il a été sodomisé avec une branche. Allez sur YouTube, tapez Kadhafi sodomie. Vous allez voir que c'est des choses qui sont choquantes. Celui qui ne peut pas regarder, qu'il ne regarde pas. On voit bien des musulmans barbus, peut-être pas une grande barbe comme moi, mais des musulmans barbus qui disent Allahu Akbar, qui sont en train de tenir debout le colonel, comme on l'appelle, M. Kadhafi, en train de le sodomiser avec une branche. Et par derrière, on entend quoi? On entend des takbirs. Et puis dans d'autres vidéos, regardez, on le voit en sang, on voit les gens qui viennent, qui le claquent, qui le giflent, qui l'agressent, qui mille et une tortures. et les gens continuent de dire Allah Akbar, Allah Akbar. Maintenant imaginez ce que le non-musulman peut comprendre. Imaginez comment le non-musulman, lui, il perçoit ces faits d'actualité. Ne cherche pas à dire Jamat Kana. Regarde pas l'image, est choquant. On sera choqué. On ne pourra pas rester jusqu'à la fin. Non, c'est des images, horribles. Moi, j'ai regardé ça, j'étais traumatisé. Je me suis dit qu'avant tout, même si on dira ce qu'on voudra sur cet homme, on n'entre pas dans ces détails. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est Allah qui va le juger. D'accord? Mais il faut savoir qu'il ne peut pas être pire qu'Abu Jahl. Est-ce qu'il peut être pire qu'Abu Jahl? Non. Est-ce qu'il peut être pire qu'Abu Lahab? Non. Impossible. Est-ce qu'il peut être pire qu'une personne qui a pris les intestins de chameau, c'est-à-dire les excréments qui venaient des intestins d'un chameau, qui a versé sur le corps Moubarak, je crois, semble qu'il faisait le sejda? Non. Non, non, non. Il ne peut pas être pire que ça. Mais malgré ça, le Prophète sallam a enseigné aux Sahaba qu'on ne mutile pas un corps. Le Prophète a enseigné aux Sahaba qu'on ne mutile pas le corps, même si, le corps d'un ennemi. Avant sa mort, on ne le torture pas. Il n'y a jamais eu un hadith. Recherchez à travers toutes les compilations de hadith, est-ce que le Prophète sallam ou est-ce qu'un des Sahaba a procédé à la torture avant d'exécuter une personne? Le qissas existe. Je ne vais pas vous dire que le Prophète n'a pas exécuté des ennemis. À cette époque, si ce n'est pas vous qui les exécutez, c'est eux qui vous exécutent. C'est-à-dire, si vous tombez dans les mailles du filet ennemi, ils vous exécutent. Vous coupez la tête, c'est clair. C'était comme ça que ça fonctionnait à cette époque. Chez les Arabes, dans tous les pays. Vous croyez que les Romains, les Grecs, ils rigolaient, eux? Quand ils prenaient, ils capturaient leurs ennemis, ils les mettaient dans une cellule avec à manger, à boire. C'était la peine de mort. Toutes les populations avaient recours à ça. Maintenant, les mœurs ont changé. Ça n'a pas de souci. Mais le Prophète sallam, ni les Sahaba, ni un calife, ni un dirigeant. Ce genre de déviance, on l'a observé. On ne va pas faire un coup d'histoire. Sous l'Empire Abbasite, l'Empire Abbas, ou l'Abbasia, lorsque les Abbasites ont renversé les Umayyads, les Umayyades, là il y a eu vraiment des actes qu'on pourrait qualifier de sadiques. On a réduit les humains au stade d'objets. Ils prenaient les anciens dirigeants de l'Empire Umayyad, ils détestaient ces gens. On les réduisait à l'état d'objet. On les mettait agenouillés pour faire office de chaise. Ce genre de choses. C'est vraiment des choses. Les livres d'histoire décrivent. C'était vraiment une période noire de l'histoire de l'islam. C'est-à-dire, on était en décalage total avec l'humanisme que le prophète alayhi salatu wa sallam avait enseigné. Et analysez juste l'histoire de Fatah Makkah, la conquête de Makkah. Après 23 ans, le prophète sallam retrouve ses vieux ennemis. Après 23 ans, le Prophète retrouve les gens qui l'ont combattu depuis les premiers jours à Mecca, et le Prophète ne les a pas tués, ne les a pas emprisonnés, ne les a pas abattus, ne les a pas torturés. Le Prophète a dit quoi à ces gens-là? Idhabu fa antum at-tulaqa. Le Prophète voit ces personnes qui lui causent du tort depuis maintenant 20 ans. Et le Prophète accorde la liberté. Il laisse ses pères, soit ils acceptent Shahada et ils deviennent des frères, même s'ils ont tué 1000 Sahaba. Même si parmi eux, il y a des gens qui ont tué les personnes de la descendance, de la famille du Prophète sallam. Mais ils disent, la ilaha illallah, le Prophète sallam sait qu'avec ça, Allah pardonne. Et lui aussi, il pardonne, accepte leur conversion. Qui c'est qui s'est converti juste avant Fatah Makkah? C'est qui? Alors, qui s'est converti? Quel grand ennemi de l'islam s'est converti? La ilaha illallah. Hindawi, Hindawi, pas prononcer ça. Khalid bin Walid? Non. Abu Sufyan. Mais il ne peut pas dire Abu Sufyan en Sabah, hein, mais bon, Abu Sufyan, c'est sûr. Abu Sufyan, ennemi déclaré de l'islam. Avant la conquête de Mecca, le Prophète lui fait comprendre quelle est la force des musulmans, quelle est la situation. Le Prophète essaie de faire tomber son orgueil. Parce que c'est mais quoi là? Il savait que le Prophète était le prophète d'Allah. Il le savait. Mais c'était par fierté. Parce qu'ils avaient des postes clés dans les tribus arabes. Ils étaient respectés parce qu'ils étaient Qurashi, Hashimi. Ils avaient des rôles. Chez les Arabes, il y avait une hiérarchie, c'était une pyramide. Et les Quraysh étaient au sommet. Et donc pour eux, j'ai un spécial d'histoire à côté de moi, j'ai oublié. Pour Omeyyad et Abbasides, ça va? Il n'y a pas de bêtises. Là-dessus, ils pensent qu'il y a une petite longueur d'avance concernant le tarif islamique. D'accord. Et donc, c'était par fierté, par orgueil, qu'il ne voulait pas accepter la ilaha illallah. Et le prophète a fait tomber Abu Sufyan. Et Abu Sufyan a fait i'lan de la ilaha illallah. Il a annoncé qu'il croit en Allah et en son prophète. C'est pas qu'il a eu peur, non. Dans son intérieurement, ces gens-là, ils savaient la vérité, mais l'orgueil était tellement fort chez les Arabes qu'ils ne voulaient pas se convertir, qu'ils n'acceptaient pas. Et là, il a abdiqué. Ça c'était Samahatul Islam. Ça c'était le message, subhanallah, d'humanisme que l'islam a montré. Alors maintenant, comparé avec ces faits d'actualité, je vous donne ma parole, mes chers frères, que c'est ce genre d'agissement, même si je sais profondément que ce sont des populations qui ont dû voir peut-être leurs femmes et leurs enfants violés, tués, décapités par cette personne-là, certainement. Ce qu'ils ressentent, nous ne pouvons pas le décrire. C'est-à-dire, assis dans un fauteuil, sous un ventilateur, il est facile de le dire. Mais ce que ces gens-là, ils ont vécu pendant 20-25 ans, Allah seul le sait. La dictature, les oppressions, les suppressions des libertés, je ne sais pas ce qu'ils ont vécu, mais leur haine est peut-être justifiable. Mais ce qui distingue le mu'min, c'est qu'il ne se laisse pas emporter par les sentiments. Même dans un moment comme ça, ils auraient dû retourner vers les textes. Et le pire, c'est que la plupart de ces personnes que vous regardez, ce sont des barbus. Et quand ils sont en train de frapper, de lapider ou je ne sais pas quoi de Kadhafi, c'est pas au nom de la démocratie. C'est Allah Akbar, Takbir, il n'y a que des Takbir Allah Akbar. Et ce que je rappelais dans une autre assemblée, c'est que malheureusement, de nos jours, les gens font le rapprochement, le Takbir est synonyme d'effusion de sang. Là, ils voient une personne lynchée, on dit Allah Akbar. Il y a 5 ou 6 ans, ils voyaient des kamikazes se faire exploser. C'était la saison. Maintenant, la saison est terminée. C'est comme les chi, les mangues. Ça prouve bien qu'il y a des gens qui jouent avec l'actualité. Il y a un contrôle des médias. D'accord ? Attendez qu'il y ait un cyclone, qu'il y ait une Coupe du Monde de football, ou de football américain, ou de rugby. Et les kamikazes, c'est comme si qu'ils vont suivre eux aussi. Et quand c'est fini, ils reviennent. Et dès qu'on joue avec, subhanallah, les médias sont dans les mains de qui on sait. Bref, donc qu'on comprenne bien, subhanallah, que jamais notre prophète, alayhi salatu wassalam, n'a agi de la sorte avec ses ennemis. Jamais de la vie. Et donc, ce que ces gens-là font, oui, hein, même s'ils ont vécu des choses ignobles, mais le musulman, lorsqu'il doit prendre une décision, il doit se référer à ce qu'Allah a décidé, à ce que le prophète a fait. Et il doit voir comment le prophète a agi. Et encore une fois, ce Kadhafi ne pouvait pas être pire qu'Abu Jahl. Retenez juste ce message. Et Abu Jahl, certes, pendant la guerre, il a été exécuté. Mais on s'est arrêté à là. Il a été enterré dans la dignité d'un être humain. Dans la dignité d'un être humain. De même qu'Abu Lahab, lorsqu'il est décédé, il a été enterré dans la dignité d'un être humain. On n'a jamais montré le cadavre ou conservé des parties du corps pour montrer aux gens que telle personne était notre ennemi. Regardez ce que nous faisons de nos ennemis. Là, wallah. Donc malheureusement, nous voyons le djahl, l'ignorance des musulmans qui, pourtant, se proclament être à la tête de l'armée ou alors de la communauté de la Oumma en menant ce genre d'action. Et comprenons que si vous allez sur un site comme bivouac.com, n'y allez pas. N'y allez pas, vous allez terminer dépressif. D'accord ? Allez-y 2 minutes. Lisez juste, ça c'est un site anti-musulman. Je pense que l'islam, c'est la seule religion à propos de laquelle on est en droit d'écrire un site ou de monter un site et de dire des paroles aussi crues. Il y a une islamophobie, c'est le seul courant qui est toléré. Un site identique à Bivouac que vous montez contre une autre religion, ce soir vous dormez en prison. C'est clair. Nous voyons bien, subhanallah, que il y a des injustices, il y a un déséquilibre dans l'appréciation des choses. Nous voyons bien que, d'une manière générale, il y a une oppression. Mais de toute façon, tout ça, c'est pas grave, ça. Avant la venue du Mahdi, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam expliquait que les musulmans vont se retrouver dans des positions difficiles, dans des situations de faiblesse. Et la situation des musulmans ne cessera de se dégrader jusqu'à la venue du Mahdi. C'est comme si que là, on est, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on était au top. À l'époque des Khulafa Rashidin, ça allait. À l'époque de Uthman, radiallahu anhu, il y a une chute sensible. C'est-à-dire, à l'époque de Umar, tout est terminé. Le prophète a dit que Umar, c'est Al-Bab, la porte de tous les troubles. Lorsque la porte sera cassée, les troubles vont entrer dans la communauté. C'est-à-dire, après le décès de Umar ibn Khattab, jamais les choses ne seraient comme avant. Donc, à l'époque de Uthman, il y a eu des problèmes qu'on sait. Avec l'apparition des chiites, des chiens, l'apparition des khawarij, hein, ça c'est une autre taïfa, hein, et puis à l'époque d'Ibn Abbas, les rayons, les qadariyas, et tous les sectes, et donc il y aura une décadence, jusqu'à la venue du Mahdi. À la venue du Mahdi, il rapportera la Iza à cette communauté, avec la conquête de Constantinople, de Constantinople, et là il y aura le khuruj du Dajjal, là il y aura la venue de Al-Masih Al-Dajjal. Donc pour revenir donc au programme d'aujourd'hui, ça c'était juste un ishara pour faire comprendre que ne croyez pas que ces gens-là, faut pas parce qu'on voit un barbu crier Allah Akbar que ce qu'il est en train de faire c'est quelque chose de bien. Ne jugez pas le dîn par rapport aux images. Analysons les textes, voyons le comportement du Prophète, le comportement des sahabas. Ça c'est notre dîn. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Le Prophète, Allah Ta'ala dit dans le Coran que nous avons dans le Prophète, à travers le Prophète, un modèle parfait. Et le Prophète a dit à propos des sahabas que mes sahabas sont comme des étoiles. N'importe quelle étoile que vous allez suivre, vous allez toujours trouver là le droit chemin, vous allez toujours trouver là la vérité. Ce sont eux nos exemples. Ce ne sont pas ce que les musulmans, malheureusement, ils font de nos jours. Alors, pour revenir à Dajjal, alors le thème du jour, c'était, en 15 ou 20 minutes, est-ce que Dajjal a déjà été créé par Allah? Est-ce qu'il a déjà été envoyé sur ce dunya? Alors, il y a un hadith qui est un peu long, mais comme on s'est un peu attardé dans les détails, on a 20 minutes, à 30 minutes, on s'arrête, Inch'Allah. On va essayer d'aller un peu plus vite. Hadith qui est authentique, rapporté dans plusieurs livres de hadith, entre autres Imam Muslim. Il suffit de savoir que Imam Muslim rahimahullah et Abu Daoud et Ibn Majah ont rapporté ce hadith. C'est-à-dire que quand on cite quelque chose, on doit toujours avoir des sources. De nos jours, il y a plein de gens qui parlent du din. Malheureusement, des gens qui n'ont pas toujours les qualifications. Et pour eux, ce que je dis, c'est Allah qui met dans mon cœur. La ilaha illallah. Mais il n'y a jamais eu un sahaba ou un tabi'in, ni Abu Hanifa, ni Imam Malik, ni Shafi'i, ni Imam Ahmed, ni Ibn Kathir, n'importe quel musulman. Il se fiait toujours au texte. Il n'y a pas une personne qui à une époque dit que moi je sais ce qu'il n'y a pas dans les livres. Parce que réellement, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il y a des gens qui vous disent dans votre figure, ou les alim, ou la prendre Coran, ou la prendre Hadith, mais nous n'en avons quelque chose que ça n'a point. Allah met dans notre cœur. Ça c'est la pire des choses. Ça c'est une porte ouverte au Talbis Iblis. Lisez le livre de Miqayyim, Talbis Iblis, vous allez voir que ces mêmes erreurs remontent depuis quand? Depuis le milieu de l'Empire Abbasi à l'Abbaside, quand certains mouvements sont apparus, mais qui étaient encore dans le droit chemin, et peu à peu, il y a eu une décadence, jusqu'à ce que les gens pensent qu'il y a, on appelle ça le Bartaniya, que le texte ou que la religion a un côté apparent et un côté caché. Et le côté caché, c'est une science infuse qu'Allah met dans les cœurs. Jamais de la vie. Parce que le Prophète, Allah t'a dit dans le Coran, Ya ayyuha Rasul, balligh ma unzila ilayka min Rabbi. Après, wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Vous connaissez. Allah t'a dit bon, Prophète, de propager tout. Si le Prophète n'a pas propagé un verset ou un ordre d'Allah Azza wa Jal, il n'a pas accompli sa mission. Et lors du Hajjat al-Wada', le Prophète a demandé aux Sahaba qui étaient tous présents, est-ce que vous attestez que j'ai propagé? Sahaba dit, au Prophète d'Allah, nous attestons. Ali lui a demandé, est-ce qu'il y a des choses que vous, Ahlul Bayt, les proches du Prophète, que le Prophète vous aurait dit certaines choses qu'il n'a pas dit aux autres? Ali dit que oui, il y a bien un parchemin que le Prophète nous a dicté et qu'il n'a pas dit aux autres. Et il a lu, c'était quoi? Ali le gardait dans un fourreau de son épée. Et c'était des choses très connues, l'obéissance envers les parents. Il y en a des principes qui sont connus. Donc nous, dans notre dîn, nous savons que tout est clair. Il y a la transparence. N'importe quelle action, n'importe quelle parole, nous sommes capables de le remonter. Ce qui fait la force de notre dîn, ce qui fait que notre dîn il est cohérent, contrairement au dîn des Nasara. Ou alors d'autres religions où ils disent qu'un tel apôtre ou tel saint aurait dit ça, mais essayer de faire la relation entre lui et le prophète à eux, il n'y a aucune relation. Et nous savons qu'une des grandes religions monothéistes, l'essentiel des règlements de leur religion remonte à quand? À 3 siècles après le départ de leur prophète. Lorsqu'il y avait différents conciles de Nicée et autre chose, à cette époque-là, on a subhanallah, je ne peux pas trop m'avancer, mais il y a des choses qui étaient interdites. Et de réunion en réunion, ils ont fini par faire tomber ce qui était interdit, c'est-à-dire aller à l'encontre de le texte divin et approuver certaines choses. Parfois, par pression du roi ou du souverain de cette époque, ils voulaient telle chose. Un exemple, il y avait, je ne sais plus, un de ces rois, le troisième concile de Nicée, si je ne me trompe pas, il y avait un roi donc qui était décédé et son épouse voulait voir des reliques dans leur lieu de culte. Chose qui était interdite dans le livre original, d'accord? Et cette dame-là, cette reine voulait absolument que les personnes présentes votaient pour l'autorisation des reliques dans leur lieu de culte et elle a pu influencer les votes. C'était comme l'équivalent de Moufti à nous qui votait les lois, et elle a réussi, et donc ces choses-là ont été introduites. Mais nous, dans notre din, nous restons taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Le prophète dit que je vous ai laissé deux choses, restez accrochés à ces deux choses, lan tadillu abada. Et ce hadith-là est en rapport direct avec ce que nous vivons à notre époque et ce que nous allons vivre avec les signes de la fin des temps, parce que le prophète m'a dit que vous ne serez jamais égarés. Et jamais, ça veut dire quel que soit l'endroit et quelle que soit l'époque. Il ne faut pas se dire que de nos jours les dieux en pratique le disent. Non, oui, il y a des difficultés, mais il n'est pas impossible de rester ferme dans sa religion. À partir du moment où quelqu'un, il garde un contact permanent avec le Coran, et qu'on dit Coran, c'est pas juste tilawatan, c'est pas juste que je suis hafid le Coran et que je lis bien et que je fais tarawih et que tout le monde dit lui il lit comme ça, ou que je peux crier Allahu Akbar quand le qari il lit un degré qui est presque surhumain. C'est pas, le Coran n'a pas été révélé juste pour être lu sur les musallas et pour être écouté ou pour être contemplé. Le Coran n'a pas été révélé pour être un spectacle. Qu'on comprenne bien ça. Et les sahaba, certains sahaba lisaient le Coran moins bien que nous. Les sahaba qui n'étaient pas d'origine arabe se sont convertis et ne maîtrisaient pas bien la lecture du Coran. Vous savez, il n'y avait pas beaucoup de hufad du Coran parmi les sahaba. Il y avait un certain groupe de sahaba qui était connu pour être des hufad du Coran. Donc, nous ne trompions pas d'objectif. Écouter les qiraat, c'est une bonne chose. C'est un ibada que de lire le Coran, que d'écouter le Coran et d'admirer, de méditer sur la grandeur d'Allah par la perfection des versets du Coran. Mais au-delà de ça, Allah Ta'ala demande « Afalam yaddabbaru al-qawl » Tous les versets, vous voyez le dal, le ba et le ra, c'est Allah Ta'ala nous invite à méditer sur le sens des versets du Coran. Un musulman intelligent, c'est un musulman qui régulièrement prend le Coran en français ou un tafsir ibn Kathir en français et qui apprend son din. Parce que ce n'est pas avec 15 minutes de bayan avant Jum'a qu'on va apprendre notre religion. Il est inconcevable, mais alors là, inconcevable qu'une personne pense progresser dans la religion uniquement par le biais de ses 5 salats et de son ramadan annuel. Là, wallah, impossible. On ne pourra jamais se rapprocher d'Allah sans qu'on passe par ce qu'Allah a révélé aux hommes. Parce que ce qu'Allah a révélé, ce n'était pas que pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala a révélé le prophète pour propager aux gens. C'est-à-dire que le Coran a été révélé pour chaque mu'min, pour chaque musulman. Ce qui veut dire que chaque musulman doit avoir une relation directe avec le Coran. Et nous ne sommes pas comme dans d'autres religions où il y a une hiérarchie. Si on ne passe pas par telle personne, on n'a pas accès à la religion. Non. Il est du droit de n'importe quel musulman de prendre un tafsir de Coran et d'apprendre sa religion. Maintenant, s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, s'il y a des choses qui sont ambiguës, si on peut, on a l'impression de voir des contradictions, là on peut se référer à un alim ou à un mufti, il va vous éclairer. Mais chaque musulman doit faire son cheminement vers Allah directement par le biais de ce qu'Allah a révélé et par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, c'est avec son alim qui nous conseille, alhamdulillah. Si on a un homme pieux qui nous donne des conseils sur la manière de purifier son intérieur, d'avoir un bon akhlaq, alhamdulillah. Mais en aucun cas, on se dit que je fais mes 5 piliers et je vais progresser. J'aurais fait mon devoir. Mais imaginez quelle halawatul iman, quelle douceur de foi un musulman peut éprouver en écoutant ou en lisant des versets du Coran qu'il maîtrise bi'idhnillah, qu'il a lu, qu'il a compris, qu'il a saisi le sens, qu'il a compris qu'est-ce qu'Allah Ta'ala est en train de lui dire à travers ce verset et qu'il le lit debout dans le tahajjud devant Allah Azza wa Jal. Ce genre de cette sensation, ça, on ne peut pas l'atteindre uniquement en lisant sans qu'il y ait une étude ou une compréhension qui accompagne la lecture. Alors donc, très brièvement, on a dit qu'on va s'arrêter à 30 minutes. Hadith al-Jassasa, le prophète alayhi salatu wassalam, une fois, a officié la salat en congrégation. Et après la salat, jalasa ala al-minbar, le prophète salam s'est assis immédiatement sur la minbar. Il a dit aux sahaba, ne partez pas. Parce que vous savez qu'il était de l'habitude des sahaba, quand la salat était terminée, ils se levaient, ils partaient. Parce que les namaz sunnah, ça c'est un idéal, hein, les sunnah qu'on fait après la salat, l'idéal c'est de les faire où? À la maison. C'est pour ça que le Prophète a dit que là, taj'alou buyutakum qubura. Ne faites pas de vos maisons comme des, on va dire comme des cimetières, parce que le cimetière c'est le seul endroit où on n'a pas le droit de faire cela. Il a dit faites les prières chez vous. Et en commentaire, là aussi, attention, quelqu'un va dire, il va dire faites les prières chez vous. Ben, mais fais pas Isha, mais garde l'actualité, mais garde mon Simpson, mais garde mon 24, je sais pas quoi, des émissions là, que je regarde pas, découvertes, ou les émissions 7 à 8, etc. Je sais pas s'ils existent encore. Et après, ils disent, mon amas, mon cas, pourquoi ça, tu fais namas chez vous? Non. On parle des namas qui sont en dehors des pharaons, en dehors des namas qui sont pharaz. Ça, c'est le commentaire authentique, hein. Sahih. Les namas qui sont pharaz, on le fait à la masjid. Mais sunnat, nafil, witar, ou tout ce qu'on veut, on fait à la maison. Pourquoi? Parce que ça apporte baraka de la maison. Ça apporte la bénédiction d'Allah de la maison. Les anges viennent quand il y a des gens qui se prosternent devant Allah Azzawajal dans une maison. Et donc, le prophète après là. Et donc, les sahabas, donc, nous voyons également le côté humain. Et les sahabas, après ça, il a besoin de faire quelque chose. Il a rendez-vous avec une personne, il doit retourner auprès de sa famille, auprès de ses enfants. Il a son commerce qui l'attend. Mais il va faire son travail. C'est à travers ce genre de texte, nous voyons le côté humain des sahaba. C'est pas des gens qui vivaient dans la masjid de Fadia jusqu'à Isha et qui ne sortaient jamais, qui avaient un tasbih dans la main et qui faisaient des cannes en permanence. Non! C'était des gens qui savaient répondre présent quand il fallait répondre présent. Et quand ils étaient avec la famille, ils étaient les meilleurs des hommes avec leur famille. Et quand ils étaient dans la masjid, c'était les meilleurs des hommes de la masjid. Mais ils avaient un degré de iman, de conviction, d'amour pour Allah, de crainte d'Allah qui faisait que ces gens-là ne tombaient pas, ne sombraient pas dans les péchés. Lorsqu'il y avait une tentation, ils savaient où étaient les limites. Ils ne mettaient pas un pied dans ce qui était douteux parce qu'ils savaient que Allah me regarde. Ils avaient le muraqabatullah. Ils avaient la présence d'Allah de leur cœur. Ce qu'on appelle le taqwa, ce qu'on peut appeler également par le ihsan. Et quand ils faisaient leur salat, pour eux c'était exactement comme si ils étaient devant le trône d'Allah Azzawajal. Ce degré de concentration, cette présence d'Allah de leur cœur, ça c'est le sifat des sahaba et c'est là, à là que nous devons aspirer. Donc le prophète, après la salat, il a dit aux sahaba restez sur place. Le prophète, il s'est assis sur le mimbar. Wa huwa yadhhak. Il s'est adressé aux sahaba en riant, c'est-à-dire en souriant. Le prophète était content, était joyeux. Les sahaba, ils écoutent, qu'est-ce que le prophète va dire? Le prophète a dit que yalzam kullu insanin musalla, que chaque personne reste sur place. Thumma qala atadruna lima jama'atukum. Savez-vous pourquoi je vous réunis là maintenant? Il dit Allah et son prophète seuls le savent. Le prophète a dit que je jure par Allah que je ne vous réunis pas pour vous rappeler des vertus de la religion, ni pour vous mettre en garde contre certaines choses. Mais je vous réunis parce que il y a une personne qui s'appelle Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari, c'est un sahaba qui habite avec nous, mais qui était nasara, qui était chrétien. Et il s'est converti, il est venu avec nous à Madina, il s'est converti, il a fait le bay'a, et maintenant il est un de nos frères. Et Tamim Ad-Dari m'a raconté une histoire qui est exactement la même histoire que je vous avais racontée, que j'avais déjà racontée avant concernant Ad-Dajjal. Et c'est pour ça que le prophète était content, que Tamim Ad-Dari a vu ce que le prophète alayhi salatu wasalam avait déjà expliqué, avait déjà propagé. On va aller plus rapidement et on va expliquer l'histoire la prochaine fois. Il dit que Tamim Ad-Dari m'explique qu'un jour, il était en mer. Il était en mer avec son équipage, donc dans ce bateau il y avait 30 personnes de deux tribus, de Lacham et de Djudam. Il dit qu'il y avait une tempête et pendant un mois le bateau était malmené, allé d'endroit à l'autre sans qu'ils ne puissent donc retourner dans leur compte. À un moment donné, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un endroit qu'ils ne savaient même pas où ils étaient. Pendant un mois, le bateau a été repoussé, entraîné dans les océans, je ne sais pas où, et ils ne savaient pas où est-ce qu'ils étaient. Jusqu'à ce qu'ils arrivent près du Nil. Il a jaziratin fil bahri. Ils sont arrivés près du Nil et arrivés à cet endroit, donc ils sont descendus. Et là, ils ont vu une créature horrible, une créature qui avait beaucoup de cheveux. D'accord? La yadruna ma qubalahum min duburi. Ils ne savaient pas c'était quoi, c'était le visage, le devant, et ils ne comprenaient pas tellement c'était quelque chose d'horrible. Ils ont cru que c'était une shaitan. C'était une djinna ou un shaitan. Et donc ils ont dit, mais qui es-tu? Demandez à cette personne. Et elle a répondu que moi je suis Al-Jathasa. C'était donc son surnom. Il dit, ben qui es-tu? Et la personne n'a pas donné de détails. Elle dit que ayyuhal qawm. Cette personne s'est adressée à Tamim Ad-Dari, ceux qui étaient avec lui. Il dit que allez dans cet endroit, il y a une construction. Ad-Dair. Ad-Dair, c'est comme un château fort ou un monument, ou un château fort ou un monastère, quelque chose de fermé. Où une personne, quand la personne est dedans, elle ne ressort plus. Il dit, allez, viens, on va appeler ça un monastère, d'accord? Allez dans ce monastère qui est au milieu de l'île, et il y a une personne qui a très envie de vous rencontrer. Donc ils sont rendus à cet endroit et il dit que fantalaqna sira'an, on s'est rendu rapidement à cet endroit et arrivé à cet endroit fa idha fihi a'zama insanin ra'aynahu qat. On a vu un être humain, ils disent bien un humain. C'était pas comme Al-Jassasar, c'était une créature, ils ne comprenaient pas c'était quoi. Non, ils ont vu un être humain. Mais ils ont dit que l'humain le plus corpulent qu'ils n'ont jamais vu. Une personne qui avait une corpulence physique comme ils n'en avaient encore jamais vu. Et il était attaché, enchaîné. On n'a jamais vu une personne aussi enchaînée que ça. Majmou'a yadahu ila unuqihi. Il avait donc des chaînes qui liaient son cou, sa nuque, à ses mains et ses genoux jusqu'à ses chevilles. Donc il était recroquevillé, il était donc attaché, il était enchaîné, bil hadid, donc avec du fer. Et donc ils ont dit que, qui es-tu? Alors, cette personne, cette créature, a regardé Tamim ad-Dari et son équipage. Alors, on ne sait pas ce que les 30 personnes étaient avec ou que Tamim ad-Dari. Et il s'est étonné, comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à ici? Il a expliqué qu'on était en mer. Nous sommes des Arabes. Il a dit, nahnu qawmun min Arab. Nous sommes des Arabes, nous étions en mer. Et après une tempête, donc notre bateau a échoué sur cette île. On a trouvé une créature étrange qui nous a dit de venir te voir parce que tu as des questions à nous poser, tu as envie de nous voir. Et la personne a dit, oui, effectivement. Et cette personne-là a posé 4 questions à Tamim ad-Dari. La première question, c'est Akhbiruni, et subhanallah, on a trouvé sur internet la traduction exacte de ce hadith, parce que les termes ne sont pas très, très accessibles. Akhbiruni an Nakhli Beysan. La première question, donnez-moi des nouvelles de la palmeraie de Beysan. Alors, Beysan, c'est une région, Wallahu alam, quel endroit? C'est une région. Il dit que, est-ce que dans cette région, les dattiers donnent toujours des dates? Ils ont dit que oui. Il a dit que, amma innahu yushaku alla yathmar. Dans quelques temps, on viendra une époque où cette région-là deviendra stérile. Où il y aura peut-être des dattiers, mais les dattiers ne donneront plus de fruits. La deuxième question, akhbiruni an buhayrati tabariya. Donnez-moi des informations sur la mer de... Alors là, j'ai trouvé, on appelle ça le lac de Tibériade. Donnez-moi des informations sur le lac de Tibériade. Et Tamim a dit, ben, quelle est ta question? Tu veux savoir quoi à propos de ce lac? Il dit, hal fiha ma? Est-ce qu'il y a encore de l'eau dans ce lac? Et ils ont dit, oui, il y a kathiratul ma. C'est un lac, il y a plein d'eau, il y a... Bien sûr. Et il a dit que viendra une époque où ce lac sera asséché. Et subhanallah, ce matin, je lis sur Facebook, une personne qui met un article concernant le lac de Tibériade, un article qu'il a trouvé dans un site qui s'appelle, on ne dira pas, d'accord. Et il dit que, extrait d'un article du 21 octobre 2011, c'est pas 1950, Moudahada l'a dit à moi, hein, c'est 21 octobre 2011, je peux vous donner l'adresse du site. L'angoisse que l'on avait à regarder la ligne rouge du lac de Tibériade baisser irrémédiablement va disparaître. Merci au dessalement, puisque d'ici à 2020, nous ne nous doucherons et ne boirons qu'avec de l'eau provenant de la mer Méditerranée. C'est-à-dire que ces gens, ils ne peuvent plus tirer de l'eau du lac de Tibériade. C'est en train de s'assécher. Alors, aurions-nous vaincu la nature? Pas encore, car les dommages causés à l'environnement nous mettent face à des défis. Ben non, là, on n'est pas dans le parti écologique. Mais c'est un témoignage qui vient de personnes qui habitent dans cette région du monde, qui témoignent, donc ça remonte à quelques jours, et disent que ce lac est en train de s'assécher, que bientôt on n'aura pas d'autre solution que de prendre de l'eau de mer pour se doucher, pour utiliser pour nos besoins quotidiens, plutôt que de prendre le lac de Tibériade. Ce lac est en train de s'assécher. Allahu a'lam. C'est ce qui est écrit dans cet article. Ce n'est pas des musulmans qui l'ont écrit. Hein. C'est un article qui vient d'une autre source. D'accord? Et donc, c'est ce que Ad-Dajjal avait demandé à Tamim ad-Dari. Il dit que viendra une époque où ce lac va s'assécher. Troisième question. Akhbiruni an ayni zaghar. Alors, la troisième question concerne la source. La source de Zughar. Et là aussi, à quel endroit c'est? Ça, il faut faire quelques recherches géographiques dans les encyclopédies arabes, chose que je n'ai pas accès, pour voir où se situent exactement ces lieux géographiques, s'ils s'appellent toujours comme ça de nos jours. Et là, il a demandé, est-ce que c'est une source, hein, il y a toujours de l'eau, là aussi, la même chose, il dit qu'il viendra une époque où cette source va s'assécher complètement. Trois choses. Maintenant, quatrième question. Akhbiruni an nabiyil ummiyin. Ma fa'al. Est-ce qu'il y a parmi vous, est-ce que dans la péninsule arabe, il y a déjà un prophète qui est illettré? Et au cas où, dites-moi, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et là, cette personne, Tamim Madari, dit oui, قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةِ وَنَزَلَ يَثْرِبِ. Elle dit oui, cet homme-là est apparu à Mecca, il a vécu quelques années, il a commencé à propager sa mission, et maintenant il est à Yathrib. Yathrib, c'était le nom de du village de Hindawi, le nom de Madina Munawwara. Il a dit que cette personne maintenant, il est à Yathrib. C'est-à-dire que cette conversation date d'après la Hijra, après le Hijra, après l'émigration. Donc il dit, cet homme-là maintenant, il est à Madina. Et la question immédiate de cette créature, aqatalathu al-arab, est-ce que les arabes ont déjà livré la guerre? Et il dit oui, il y a déjà eu des guerres. Si on est au début de Hijra, hein, il y a déjà eu Badr et
Badr avec
deuxième guerre mondiale,
non.
Badr et Uhud, la ilaha illallah. Il faut revoir ses bases, monsieur Molan, d'accord? Oui, c'est pas que le Vem, les Kafan et tout, il faut également voir ses bases en tarikh, inshallah. Dit oui, il y a déjà eu des guerres. Et il dit, Kaifa sana'a bihim, hein, quel était le résultat de ces guerres? Et il a expliqué que, alhamdulillah, ils ont eu le dessus. Hada. Il a demandé maintenant, est-ce que les Arabes commencent à obéir à ce prophète? Et Tamim dit que oui, il y a beaucoup d'Arabes qui sont en train de se soumettre à lui et d'accepter son message. Et regardez ce que Dajjal va dire. Inna dhalika khayrun lahum an yuti'uhu. Elle dit qu'ils ont tout à gagner à obéir à cet homme. Qui dit ça, c'est Dajjal. Il se permet de le dire maintenant parce que sa mission n'a pas encore commencé. Il dit à Tamim Ad-Dari, si les Arabes suivent cet homme, c'est la meilleure des choses qu'ils peuvent faire. Ça nous rappelle ce que Shaitan dira un jour. Shaitan dira lorsque les gens du paradis seront dans le paradis et les gens de l'enfer seront dans l'enfer. Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haqq. Il va dire aux gens de l'enfer. Shaitan, il y est. Et les munafiqins, les mushrikins, les kuffar billah, ils y sont, malheureusement. Il dit que Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah Ta'ala vous a fait une promesse véridique. Et c'est vous qui n'avez pas obéi. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Elle dit que moi, je n'avais pas d'emprise sur vous. La seule chose que j'ai fait, en ce sens, ma mission c'était ça. C'était de vous faire de fausses promesses. C'était de vous induire en erreur. Et vous m'avez obéi. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Maintenant, ne faites pas de reproches. Faites des reproches à vous-même. C'est-à-dire que moi, Shaitan, enfin pas moi, Shaitan dit que mon travail c'était quoi? C'était de vous détourner du droit chemin. C'était de vous faire voir le monde, le dunya, comme étant l'objectif de votre création. Que je suis là pour mon travail. Ma vie c'est pour mon commerce et gagner, amasser, et c'est ça. Je vais être heureux, plus je vais avoir, plus je vais être heureux. C'était ça l'objectif de Shaitan. S'il ne peut pas nous amener vers le zina, vers l'alcool, vers le polythéisme, ne serait-ce faire en sorte d'enlever l'amour d'Allah de notre cœur et de mettre autre chose, afin que nous prenions la mauvaise direction, même si on a l'impression d'être le droit chemin, mais que dans le cœur il n'y a pas Allah et son prophète. Donc Shaitan dira à ceux qui sont de le Jahannam, au Kuffar, au Mouchikin, que ben, mon travail c'était ça, vous m'avez obéi, maintenant c'est votre problème. La même chose que, parce que sa mission maintenant elle est terminée. Il y avait un hadith, mais j'ai fait des recherches, le hadith est mawdou', le hadith est faux, il n'est pas authentique du tout. Mais juste pour avoir une idée, il dit que lorsque le soleil se lèvera à la fin des temps, à l'ouest, petit test, lorsque le soleil se lèvera à l'ouest, il dit que Shaitan se prosternera devant Allah. Le hadith n'est pas authentique. Maintenant, peut-être qu'en recherchant, on peut trouver une source de Hassan qui est correct, qui est acceptable. Ça, c'est une autre histoire. Il dit que Shaitan se prosternerait vers Allah, il prosternerait pour Allah Azzawajal. Et là, on parle de Iblis, là, le chef. Et là, les petits shayatin, les commandants, les lieutenants, les autres shayatin, ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce que tu fais, ô Iblis? Et là, il va dire que ma mission, c'était de détourner les gens jusqu'à ce moment. Mais d'un sens, ça rejoint un verset du Coran. Lorsque Shaitan a été expulsé du paradis, il avait demandé à Allah, dans 14e sifara, oh, mashallah, c'est wahi. Il avait demandé un délai à Allah. Et Allah lui a accordé ce délai. Ce délai, c'était quand? Dans certains commentaires, il dit que c'était jusqu'à ce moment, jusqu'à la fin des temps. Et ça rejoint notre hadith qui dit que le tawbah est accepté jusqu'à deux étapes. Jusqu'à le gharghara, soit la personne est dans l'agonie. Là, quand on est en train de mourir, c'est fini. On ne demande plus de tawbah, c'est fini au moment de mourir. Ou alors que le soleil se lève à l'ouest, là, il n'y a plus de tawbah qui est accepté par Allah. Donc on revient vers le texte. Cette personne dit que voilà, si vous, arabes, vous obéissez à cet homme, c'est beaucoup mieux pour vous donc d'agir de la sorte. Et ensuite, maintenant, il dit que après avoir dit tout ça, après avoir écouté Tamim ad-Dari, il dit wa inni mukhbirukum anni. Maintenant, je vous explique qui je suis. Inni ana al-Masih. Je suis le Dajjal. Et dans quelque temps viendra une époque où an yu'dhana li fil khuruj. On me donnera l'autorisation de sortir. Qui lui donnera l'autorisation? C'est Allah Azza wa Jalla. C'est pas telle personne des dirigeants du monde qui décide que Dajjal apparaisse. Non, Allah décide que Dajjal entre en scène, en guillemets, que sa mission commence, parce que le contexte est fait pour que Dajjal maintenant soit là, pour tester le iman des gens et pour détourner ceux qui n'avaient pas iman ou qui étaient hypocrites, pour les détourner, qu'Allah nous protège du droit chemin. Et donc il a expliqué que lorsque je vais sortir, je vais apparaître, fa'asiru fil ardi, je vais me déplacer sur toute la surface de la terre. فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة. Et je vais passer dans toutes les régions, tous les pays, tous les continents, dans un espace de 40 nuits, à l'exception de Mecca et Taïba. Taïba, c'est un des noms de Madina, qui sont de Mecca et Madina. فهما محرمتان عليا كلتاهما. Ces deux villes-là sont haram pour moi. Je ne peux même pas m'approcher de ces deux villes. Et à chaque fois que j'essaie de m'en approcher, istaqbalani malakun biyadihi sayf wa sultan yasudduni anha. À chaque fois que j'essaie de m'approcher de Mecca ou de Madina, il y a un ange qui se met entre les frontières de cette ville sainte et moi-même avec un épée, on va dire une épée et qui me chasse de Mecca et de Madina. Et il dit que dans chaque côté de Mecca et de Madina, il y a des malaïkas qui sont là, qui protègent. Donc, il a annoncé à Tamim ad-Dari que moi je suis Al-Masih ou Dajjal, et que lorsque tous ces signes-là se seront réalisés, là viendra le moment où Allah Ta'ala va me donner l'autorisation d'apparaître sur ce dunya. Et donc, Tamim ad-Dari a rapporté ça au prophète Ali, salat wa salam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué aux sahaba que c'est exactement ce qu'Allah Ta'ala lui avait révélé, c'est exactement ce que le prophète Ali, salat wa salam, avait déjà raconté aux sahaba. Maintenant, pour conclure, parce qu'on ne va pas revenir sur ce chapitre la prochaine fois, il faut savoir que il y a des gens, même parmi les savants musulmans, qui appartiennent à une madrasa qu'on appelle madrasa aqlaniya. Nous, on ne connaît pas ça à La Réunion. On vit d'un petit cocon, alhamdoulilah, on ne connaît pas beaucoup de choses qui se passent. Mais parfois, il y a des éclats, il y a des courants de pensée qui nous reviennent. C'est des gens qui sont musulmans, qui sont des savants, qui sont du ulama, mais pour eux, il faut que tout ce qui se dit à la religion soit logique. Yani, il faut en sorte que tout ce qui a trait à l'invisible, ils essaient de les interpréter d'une manière cohérente, parce qu'ils ne veulent pas d'une religion où il y a l'invisible. Par exemple, quand Allah Ta'ala annonce qu'à la fin des temps, dans le Coran, kharj alayha dabbatan min al-ard tukallimuhum, j'ai pas le début du verset, quand Allah Ta'ala annonce qu'à la fin des temps, il y aura une bête, un monstre qui va apparaître tel endroit, si je me trompe pas, c'est près du mont Safa, et qui va s'adresser aux gens. Alors ces savants-là disent que c'est pas vraiment une bête qui va apparaître, c'est un virus, c'est une maladie, ce sont des bactéries qui vont infecter les gens, etc., etc. C'est-à-dire ils essaient d'aller vers des interprétations qu'on appelle cohérentes, parce qu'ils ne veulent pas d'une religion où il y a du rêve, il y a de l'invisible. Donc ça c'est contraire au principe du musulman, même du mu'min, alladhina yu'minuna bil ghaib. Donc c'est ce qu'on appelle l'école des, allez, ils se disent des illuminés, ou alors l'école des aqlani. Aq, ça veut dire la logique, hein, ceux qui veulent la logique dans la compréhension. Si je comprends l'action, c'est bon, si je ne comprends pas, c'est pas possible, je vais essayer de trouver une interprétation. Donc il y a eu à travers toutes les époques les gens qui ont dit que oui, mais depuis, je ne sais pas, depuis 14 siècles, hein, les marins turcs, les marins arabes, les marins de toutes les civilisations, ils ont parcouru la plupart des mers. Et si vraiment cette île existait et qu'il y avait ces deux créatures étranges-là, ben on aurait rapporté, on le saurait. Et puis à notre époque, il y en a d'autres qui disent que oui, mais avec les satellites infrarouges, on a découvert toutes les parties du globe terrestre. C'est impossible. Si cette île existait, on l'aurait déjà découvert à travers les satellites. Mais ces gens-là, ils mettent de côté une parole prophétique au profit de la logique de leur esprit qu'ils disent cohérent. Allah musta'an. Et ça, c'est vraiment la pire des choses. Et les ulama en commentaire disent que, mais qui vous dit qu'Allah Ta'ala n'a pas demandé, par exemple, à un ange de faire en sorte de mettre une de ses ailes sur cette île-là pour qu'aucun être humain ne puisse le voir? N'allez pas loin. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encerclé, où ça? À Mecca. À quel moment? lorsqu'il veut quitter, madame Alif Sirat, tome 2, tome 3, Inch'Allah, lorsqu'il veut quitter Makkah pour aller à Madina pour la Hijra, qu'est-ce qui se passe? On a un représentant de toutes les tribus arabes qui sont au toit de sa maison avec chacun, il a une épée en main. Ils attendent que le prophète sallam quitte sa maison pour l'exécuter. Allah Ta'ala met de son cœur de sortir, de jeter de la terre, dit « وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ » ne voit pas. Allah Ta'ala fait en sorte que le prophète sallam passe, on pourrait dire, avec tout le respect qu'on a, par exemple, sous le nez. Le prophète sallam passe devant eux, ils sont aveuglés, ils ne savent pas ce qui s'est passé. C'est pas qu'ils ont été assommés. C'est pas qu'ils ont été assommés, qu'ils se réveillent ensuite. Il dit que ouais, il est sorti, on va le retrouver. Non, c'est que lorsque le prophète s'est éloigné déjà, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils n'ont pas perdu conscience. Ils ont été aveuglés. Ils ont, c'est pas non plus qu'ils ont perdu la vue. Ils le retrouvent tout de suite. Non, c'est que le prophète passe devant eux, ils ne voient pas. Quand le prophète s'est éloigné, ils attendent le lendemain. Ils ouvrent la maison du prophète, ils voient qui? Qui c'est qui dormait? Hazrat Ali radiallahu anhu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas lâché d'une semelle. Leur attention était permanente du début jusqu'à la fin. Mais Allah fait en sorte que cet homme passe devant, je ne sais pas, 10 ou 15 personnes sans que un parmi eux ne s'en aperçoive. Ça, c'est la qudrat d'Allah. Quand Allah veut qu'une chose se réalise, Allah peut faire en sorte que les lois physiques, les lois métaphysiques ne s'appliquent plus. Parce que là, il y a la nusrat d'Allah. Et l'aide d'Allah s'apparente à quoi? S'apparente au ghaib. Quand Allah envoie son aide, c'est en rapport avec l'invisible. Quand lors de la bataille de Badr, le prophète demande doua et qu'Allah Ta'ala envoie des malaïkas et que les sahaba disent qu'ils voient les ennemis venir et les ennemis ils meurent devant eux sans qu'il n'y ait d'intervention, sans qu'il n'y ait de personne en face d'eux, ce sont des malaïkas qui étaient envoyés pour le Badr. Et aucune autre campagne, il y a eu des anges qui sont intervenus directement, qui ont aidé les musulmans pour combattre les mouchriquins, les ennemis. Les gens ne voyaient pas ce qui s'est passé. Ça, c'est la nusrat d'Allah. Et quand on parle d'aide divine, c'est en rapport avec l'invisible. Et quand on parle d'invisible, nos lois physiques ne sont plus applicables. Allah a décidé que cette créature existe. Wallahi, je jure par Allah qu'elle existe. Allah a décrété qu'aucun être humain n'ira à sa découverte tant qu'il n'apparaît pas de lui-même. Cela se fera comme Allah l'a décidé, que l'on veuille ou non, que les gens l'acceptent ou non. Ça c'est ilmul ghaib. Ça c'est iman yaqin, ça c'est la conviction sur la parole que le prophète sallam nous a enseignée. Et de nos jours, malheureusement, vous savez, après chaque bayan de Jumaa, hein, allez sur Facebook, allez sur mon mur, vous voyez les commentaires. Ouais, maintenant on a dit ça, mais pourquoi? Mais c'est pas possible. Hein, quand, là, il y a des gens qui reviennent sur le destin. Et j'avais cité un hadith une fois, on a essayé de m'harponner, mais j'ai esquivé le coup. Il dit que oui, vous dites que le hadith du prophète a dit qu'il y a des gens qui durant toute leur vie, ils vont faire les actions des gens du paradis, mais avant de mourir, Allah a décidé qu'ils vont faire une erreur et ils feront partie des gens de l'enfer. Dis ben dans ce cas, quel intérêt? Dans ce cas, quel intérêt à faire des bonnes actions s'il est possible qu'avant de mourir, on se retrouve dans le mauvais chemin? Vous savez cette question-là? C'est pas au 21e siècle qu'il y a des gens qui posent cette question. Il y a des gens qui ont posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous croyez que les jeunes sahaba ils comprenaient rien, a'oudou billah? Vous croyez que les sahaba ils étaient sahaba à l'âge de 40 ans? Non! Il y avait des sahaba qui avaient 15 ans. Il y avait des sahaba qui avaient 18 ans. Qui eux aussi voulaient comprendre les choses de manière cohérente. Ça c'est une réaction humaine ça. C'est pas parce que j'ai Twitter, Facebook aujourd'hui, je pense être la génération illuminée par rapport à toutes les civilisations avant. Non, toutes les époques, les gens voulaient comprendre. Et il est dans la nature des jeunes de vouloir des explications. Les sahaba avaient demandé pour Assalam la même question. Sur le destin, quel est l'intérêt de faire des actions alors si tout a été prédestiné? Et le prophète m'a dit que Allah a décrété des choses et nous devons agir. Et chacun construit son destin. Et en finalité, c'est Allah qui connaît mieux ce qui est prédestiné. Et les sahaba, ce hadith-là, il se trouve dans Tafsir al-Kabir d'Al-Fakh al-Razi, magnifique livre. Et sahaba, il dit une parole, Izan na'amal, ou alors Izan al-amal, quelque chose comme ça. Lorsqu'ils ont écouté les explications du prophète, ils ont dit que donc, à partir de maintenant, nous allons redoubler d'efforts dans l'accomplissement de bonnes actions. Il y a que le but, ce n'était pas juste de discuter. Aujourd'hui, on a des grands islamologues qui discutent de la religion. Ils parlent de l'islam. avec un, comme dit, un pied sur l'autre, avec cigarette dans la main, avec, pour eux, voilà, je me permets de discuter de l'islam, subhanallah, de discuter de 1500 années de pratique assidue du dîn, de révélation divine. Mais le but, c'est pas l'amal. Le but, c'est de parler blablabla, tatata, d'écrire un livre, d'avoir un prix Nobel, d'avoir telle chose, d'avoir une reconnaissance au plan de vue national, international, d'être reconnu comme conférencier. Les Arabes, ce n'est pas ça le but. Ils posent la question pour Assam, c'est une question sincère. Ils ne comprennent pas. Si Allah tout prescrit, a tout prédestiné, quel est l'intérêt d'agir? Et le Prophète donne la réponse, les Sahaba écoutent. Ils voient qu'il y a quand même un pourcentage de choses qui ne peut être compris uniquement par notre esprit rationnel, mais ils savent que c'est le Prophète qui le dit, ça vient d'Allah et que c'est haq, et dit que au Prophète d'Allah, donc nous allons redoubler d'efforts. Ils convertissent la réponse en action, en amal. Et c'est ce qui distingue les Sahaba. Il n'y a pas de mal à poser des questions, mais il y a une différence entre poser des questions et tout remettre en cause. Discuter avec une personne encore quelque temps, une personne n'est pas dans l'assemblée, sur les trois talaqs. Quelqu'un me disait que la religion était injuste. Pourquoi après trois talaqs, je ne peux pas reprendre mon épouse? Il dit que Allah t'a permis de donner un talaq et de reprendre ton épouse. Allah t'a permis de donner un deuxième talaq et de reprendre ton épouse. Mais après le troisième divorce, on ne reprend plus l'épouse, c'est fini. C'est la sagesse d'Allah à nous d'accepter la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas dire que c'est pas la religion qui est injuste. C'est moi qui ai été injuste. Au nom de quoi? J'ai dit à mon épouse, dégage. Fous le camp, mida ou trois talaks, sorte de là. Retourne chez ce moment. Au nom de quoi? Quel musulman je suis pour parler de la sorte avec ma femme? Lorsque le Prophète reçoit d'une de ses épouses un bol de nourriture, un mets que le Prophète appréciait, et que le Prophète était chez une autre de ses épouses, et cette épouse-là, j'ai pas les noms en tête, elle était tellement en colère et prise de jalousie que je reçois le Prophète et l'autre envoie quelque chose, c'est de la concurrence illégale, on pourrait dire, d'accord, elle prend ce plat, elle le jette, elle casse. Déjà la nourriture, c'était pas abondant à cette époque, le faire devant le Prophète sallam. Le Prophète, il va s'agenouiller, il ramasse la nourriture et les débris du bol cassé, il les ramasse. Et il n'a pas dit un mot à cette femme-là. Parce qu'il a compris la faiblesse de cette femme-là à ce moment précis. Mais où est-ce que, mais moi, musulman, barbu comme je suis, habillé comme je suis issu de grandes familles, de grands renoms, de grandes. Son papa était Hafez Quran, son dada était un tel. Oui, mais moi, je suis qui, moi? Pour agir comme j'ai envie, de manière bestiale presque, et de ne pas regarder quel était le comportement de la personne. C'est pas l'islam qui est injuste, c'est mon comportement, j'ai dépassé les limites. Ne pas remettre en question ce qu'Allah a écrit dans son dîn. Alors les questions qui reviennent sur le destin, c'est sur la peine de mort. Il y a la peine de mort, c'est pas possible. On ne peut pas être musulman et désirer la mort de quelqu'un. Le Prophète a pardonné dans certains cas, et le Prophète a su appliquer cette sentence dans des cas où c'était nécessaire. Et dans toutes les civilisations, la peine de mort est appliquée. Mais le Prophète, et Allah Ta'ala du Coran, celui qui pardonne à quelqu'un qui mérite la peine de mort, c'est une grande action aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Les taqwa, c'est plus proche de la taqwa. Allah incite. Si vraiment vous voulez votre droit, vous avez votre droit. Mais si vous pardonnez, Allah vous donnera une place à part. Et ça m'encourage. Même si quelqu'un a tué votre papa, votre maman, what, et vous êtes en droit de réclamer le prix du sang, Allah vous encourage à pardonner. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de gens. Sur la femme, pourquoi la femme se couvre les cheveux? Wallah musta'an. Il faut pas oublier quelque chose, on va terminer avec ça, que je suis un musulman, muslim. Dans muslim, il y a quoi? Le signe, l'âme, le mime. Dans muslim, on avait dit ça cinq petits, il y a muslim, il y a islam, il y a une racine commune avec al-istislam. Al-istislam, c'est quoi? C'est at-tadallul wal-khudu'. C'est se soumettre à Allah. C'est pas, j'avais dit, il y a la blague déjà, hein. C'est pas ayam muslim, don't panic. C'est pas que ça. Il y a peut-être don't panic, ok. Mais ayam muslim, tout d'abord, ana mustaslim lillah. Quand je dis que je suis muslim, c'est que je me soumets à Allah. Ce qu'Allah a dit, je baisse ma tête et j'accepte. Pourquoi? Parce que c'est mon créateur. C'est tout. Il n'y a pas à dire, oui, pourquoi? Mais de nos jours, dans notre contexte, au 21e siècle, dans un pays européen, multiculturel, multirace, etc., etc., Allah a décidé que les choses soient comme ça. Et puis je regarde comment je peux l'appliquer, mais ne jamais remettre en question, remettre en cause ce qu'Allah a révélé, ce que le prophète alayhi salatu wasalam a dit. Le musulman, c'est celui qui se soumet à Allah, qui accepte les ordres d'Allah, qui s'éloigne des interdits, même que je n'apprécie pas cet interdit, même si je n'apprécie pas cet ordre, ou que j'ai envie d'avoir recours à cet interdit. On a dit, je suis commerçant, je n'ai pas le droit de dire qu'avoir recours à l'intérêt, c'est impératif pour monter un commerce. Si vous, qui a dit que vous devez avoir un commerce de 400 mètres carrés? Halas, faites un commerce de 40 mètres carrés avec l'argent halal. Au moins le jour de Qiyamah, vous ne ferez pas partie de ces gens. Qui est prêt de nos jours? Qui veut dire je ne touche pas le fait qassam, que je suis prêt le jour de la résurrection d'être ressuscité comme un fou qui a été possédé par le diable? Personne ne signerait pour ça. Et pourtant, quand je fais un emprunt avec l'intérêt, avec la banque ou avec qui que ce soit, et que j'ai riba, Allah Ta'ala dit, c'est pas une mise en garde. Allah Ta'ala il explique que ceux qui consomment l'intérêt le jour de la résurrection sont ressuscités. Qu'Alladhi yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mas. Dhalika biannahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba. Ils ont dit que le commerce, l'intérêt, tout ça, c'est la même chose. Donc moi, musulman, istislam lillah, je me soumets aux ordres d'Allah et je me soumets aux interdits. Qu'Allah nous tawfique, moi, premier, de comprendre ces quelques paroles. Mes chers frères, très souvent, on va très loin de nos actions. Il y a beaucoup de gens, moi je vous dis clairement, il y a beaucoup de gens qui, s'ils voient, excusez-moi, je ne veux vexer personne, quand ils voient un converti, il dit que oui, mais ce n'est pas un vrai musulman comme nous. Ou s'il voit quelqu'un qui n'est pas d'origine Aprawala, Gujarati, je ne sais pas comment on appelle tout ça, il dit que oui, mais pas pareil. Pour eux, hein, excusez-moi, quelqu'un de d'autres îles qui sont autour, qui ne sont pas même couleur que nous, c'est pas comme nous ça. La ilaha illallah. Ça c'est un signe de nifaq. Ça c'est un signe de jahal, d'ignorance profonde. Vous croyez qu'Allah va nous juger sur notre couleur, sur nos origines, sur le nom à où tu appartiens à telle grande famille, et celui-là c'était un converti? Allah il regarde la taqwa qu'il y a de nos cœurs. Et très souvent, il y a des gens pour eux que si quelqu'un n'est pas habillé en kafni, en bonnet en kafni, ben il ne peut pas être un religieux. Si je vois quelqu'un en chemise et tout, mais lui, c'est un. Ils vivent comme banal, ils imitent d'autres peuples. Non! Il n'a jamais été. Subhanallah! De nos jours, s'il n'y a pas le kafni, le turban, le bonnet et la barbe, je ne remets pas en question la barbe, c'est une sunna. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais malheureusement, nous nous focalisons et pire, nous nous suffisons de ça. Si un moun a la barbe, il peut être un tyran avec son épouse et ses enfants. Il peut être un néandertal, un homme préhistorique chez lui, mais du moment qu'il a la barbe, il a kafni et qu'il est là cinq namaz, c'est un bon musulman. C'est pas comme ça que les choses marchent. C'est pas comme ça que les choses marchent. Il y a tellement de choses à dire, subhanallah, on va s'arrêter. Vous savez les gens qui ont tué Hazrat Ali, les gens qui ont assassiné Hazrat Ali, c'était des gens qui avaient décrit les hadiths, c'était des gens qui avaient de grandes barbes et qui espéraient le contentement d'Allah en faisant de telles choses. Dire que c'est pas juste que je fais des actions et j'aurai le paradis, je dois comprendre ce que je fais, retourner vers l'essentiel. C'est pas juste l'islam, c'est pas une apparence physique. L'islam, c'est pas appartenir à une grande famille de musulmans. L'islam, c'est ce que j'ai dans mon cœur. La soumission à Allah. Subhanahu wa ta'ala, bil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'ala al-mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Jazakumullahu khair.